qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire de mon meilleur d'être succinct et clair. Mais pourquoi nous sommes ici ce matin? Nous voulons apprendre quelque chose de Dieu et de son plan pour nous, sa volonté pour nous. Donc, Ésaïe chapitre 2. Vous pouvez prier pour nous parce que dans 7 jours, je quitte, juste après le culte, je quitte la famille pour aller à l'Institut biblique et je vais donner un cours sur Ésaïe et Ézéchiel pendant 4 jours. Donc, priez pour la famille. Je ne serai pas là avec Elisabeth et priez pour moi aussi. Mais en préparant pour le cours, j'ai lu ces mots et ces mots m'ont interpellé. Et je voulais partager quelques pensées ce matin. Donc, marchons à la lumière. Le passage, c'est Ésaïe 2, le verset 1. Et je vais lire jusqu'au verset 5. On va pas aller jusqu'au verset 9. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps, il parle de fin du temps, d'accord? Ça, ce n'est pas 10 ans, 15 ans, 100 ans, 1000 ans, maintenant c'est quand Jésus reviendra. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » L'Éternel sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'en prendra plus la guerre. C'est une belle vision. Mais pourquoi on a cette prophétie? Le verset 5 nous dit... Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Ce sont les paroles de Dieu pour nous ce matin. Bon. Quand j'ai lu ce passage, j'avais 4 questions. Et on va considérer ces 4 questions. Première question, en quoi consiste la lumière? Parce qu'il dit, marchons à la lumière de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Il faut attendre le soleil? Non, bien sûr pas. Il y a 3 aspects de la lumière de Dieu que j'ai vu dans ce passage. D'abord, on a le règne universel du Seigneur. Le règne universel du Seigneur. Il dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Et il dit aussi, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Et juste quelques observations en général. Hein. La montagne est souvent dans la Bible une image de l'autorité gouvernementale, comme en Daniel 2, 35. On voit que la montagne arrive, qui est plus grand que toutes les autres montagnes. C'est la montagne de Dieu, c'est son gouvernement. Et dans ce passage, la montagne de la maison de l'Éternel occupe la place la plus élevée du monde. Bon, si on veut être hyper littéral, d'accord, avec notre traduction de ces mots, on dira, la montagne de la maison de l'Éternel sera établie comme la tête des montagnes. Et quand on parle des têtes, on parle de quoi? La tête de la France, c'est qui? C'est le président de la République, c'est le chef, d'accord? Et la tête ici est une image de l'autorité d'un chef-lieu. Une autre chose, le fait que le verset parle de la maison de l'Éternel indique que son règne est imminent. Et ce que je veux dire par imminent, c'est l'inverse d'être transcendant. C'est pas loin. C'est là. Parce qu'il parle de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel lui-même règnera à place. La maison de l'Éternel est le lieu où se trouve la présence de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est sa présence sur la terre et l'Éternel ne régnera pas de loin. Il sera là avec nous pour diriger les événements du monde. On a un règne qui est universel, et son règne n'est pas le règne de loin. Hein? Un peu comme Paris dirige les choses à Mayotte. Hein? Ça ne se passe pas très bien. Non, Dieu, il sera là avec nous, avec un règne qui est universel. Et une troisième chose, ce règne imminent ne sera pas limité à Israël. Il sera le juge des nations. On ne doit pas penser à l'Éternel comme le plus puissant roi parmi tous les autres rois qui gardent leur autonomie. Comme s'il est le roi d'Israël qui exige le tribut d'autres nations autonomes. Non, l'Éternel lui-même sera le juge des nations. Il exercera son autorité sur tout. D'accord? Et ce n'est pas comme il n'exerce pas son autorité maintenant. Mais nous pouvons voir que même si Jésus, Dieu, est roi maintenant, son royaume n'est pas entièrement établi sur terre. Il exerce son autorité, ça c'est vrai. Il est souverain. Mais il attend. Il n'est pas venu en tant que juge. Mais il va venir en tant que juge et il va établir la justice. Ça, c'est le premier aspect de la lumière, le règne universel du Seigneur. Le deuxième aspect, c'est l'enseignement universel du Seigneur. À la fin des jours, Dieu exercera un règne universel sur les nations du monde. Mais quelle sera la nature de son royaume? Les nations seront-elles les esclaves résistants battus par les armées de Dieu? Un peu comme les royaumes des Assyriens qui sont venus, ils ont battu tout. Et oui, ils ont exercé un règne qui était assez universel à cette époque-là. Mais tout le monde était contre eux. C'était par la force. Les nations sont-elles les esclaves? Non. Sont-elles les nations qui voient une source infaillible pour une société d'haute consommation? Hein? D'accord, on va faire partie de cette conglomération parce qu'on veut être plus riche. Parce que ça, c'est l'idée. Hein? D'accord, on va suivre l'Éternel parce qu'on veut être riche. On veut avoir une société d'haute consommation. Bon, qu'est-ce que dit Esaïe? Ils vont dire, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il fait quoi? Il nous fait riches. Non, il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Quelle est la nature de son règne à l'avenir? C'est quoi? Il va nous instruire. Il y aura un jour où l'enseignement de Jésus, de Dieu, est universel. Pas comme aujourd'hui, où la plupart du monde résiste à l'enseignement de Dieu. Mais le jour arrive quand tout le monde cherchera l'enseignement de Dieu. Ça, c'est une partie de la lumière. Une troisième partie de la lumière, c'est la paix universelle du Seigneur. Et ça, c'est un passage même connu par les non-croyants et souvent cité par les non-croyants. Notre désir, que c'est on échange nos fusils pour les outils du jardinage. Hein? Ça, c'est ce qu'on veut faire avec le monde, même les non-croyants. Mais notons plusieurs choses sur la paix universelle de Dieu. D'abord, la paix de Dieu est plus que l'absence de guerre. D'accord? Aujourd'hui, on a la paix. Hein? On a la paix, peut-être, on peut dire, entre les États-Unis et la Russie. Hein? Mais ça, c'est pas exact. On n'a pas la guerre, mais on se prépare pour la guerre. Hein? Et on parle comme on veut avoir une guerre. Ça, c'est pas la paix de Dieu. La situation est différente. Aujourd'hui, les nations ils développent et déploient les armes comme des moyens de dissuasion. On a la paix, mais beaucoup de notre énergie et de notre argent est dépensé en nous préparant pour la guerre. Mais la paix universelle de Dieu, on va prendre les outils de guerre et on va les transformer en équipement d'agriculture. Et c'est quoi l'agriculture? C'est quelque chose qui est conçu pour donner la vie. Hein? On échange les choses qui détruisent pour les choses qui bâtissent. Et ça, c'est ce que la paix de Dieu est. C'est plus que l'absence de la guerre. En fait, c'est la recherche de la vie et de la santé. Et Dieu va faire toutes ces choses. Donc, quand il dit « marchons à la lumière de Dieu », ça c'est quoi? Ça c'est le fait que Dieu aura un règne universel, un enseignement universel et une paix qui est universelle. D'accord? Ça c'est la lumière qui doit informer nos vies présentes. Alors, on a vu, ça arrivera dans l'avenir, mais ça doit changer le présent. Mais comment, d'accord? Et la question ensuite, quel besoin pour la lumière? Si on a besoin de la lumière, ça veut dire quoi? On a les ténèbres, n'est-ce pas? Ça c'est un peu logique, je pense. Quand j'arrive à la maison la nuit, je peux pas voir parce qu'il y a les ténèbres, donc je dois marcher à la lumière. Je cherche la lumière. Quelles sont les ténèbres? Quelles sont les ténèbres? Donc, quel est le contexte historique? On n'a pas beaucoup de temps, mais à cette époque-là, il y avait deux rois, et on les trouve chapitre 1, le verset 1. On parle d'Ozias et de Jotham, d'accord? Et c'était une époque de renouvellement pour Juda, parce que juste avant qu'Ozias est devenu roi, son père, il a incité une guerre et il a perdu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le royaume du Nord est arrivé. Ils ont démonté le muraille, le grand muraille de Jérusalem. Jérusalem a été exposée aux ennemis. Il a pris toutes ses richesses. Il a pris beaucoup de prisonniers. Et Juda a été affaibli. Vraiment affaibli. Mais avec Ozias, il a renouvelé le royaume, il a rebâti les murailles, il a renouvelé l'armée, et ils ont eu beaucoup, beaucoup d'argent. Je peux entendre Ozias, je peux l'entendre dire, Juda est de retour. Juda is back, comme Macron a dit pour la France. La France est de retour. C'était une époque avec beaucoup de richesses, beaucoup d'espérance, mais deux tentations principales. Il avait la tentation d'abord, peut-être trois. Parce qu'il y avait un besoin historique, il y avait une menace politique face à un règne universel. Hein. c'est-à-dire universel, pas universel comme Dieu, mais il y avait le royaume de Syrie qui voulait gagner la supériorité sur tout. Et à cette époque-là, juste au nord de Juda, il y avait le royaume du nord, et aussi c'était Assyrie, et c'était le royaume du nord et le royaume de Syrie qui ont dit, on veut résister contre Assyrie. Et Juda a dit non. Et donc, pour terminer avec eux, avant qu'Assyrie arrive, ils ont dit, on va attaquer à Juda, Jérusalem, le royaume du sud. Ça, c'était une menace. Il y avait aussi l'attirance aux idoles face à un enseignement universel. Juda avait une décision. Je mets ma confiance en Dieu qui va régner universellement, ou je mets ma confiance dans un roi humain. La deuxième chose, l'attirance aux idoles face à un renseignement universel. On a vu, Dieu, il va régner avec un enseignement qui est éternel, universel, pardon. Mais à cette époque-là, quand toutes les richesses sont venues à Jérusalem, qu'est-ce qui arrive quand on a tout ce qu'il faut? On oublie qui? On oublie Dieu, n'est-ce pas? Et ils ont commencé à oublier Dieu. Ils ont commencé à chercher les idoles des voisins. Et leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit? Dans l'avenir, il y aura un enseignement qui est accepté partout. Et en fait, les nations vont venir ici pour chercher qu'est-ce que dit Dieu. Pourquoi vous cherchez chez eux pour ce qu'ils disent leur faux Dieu? Ça, c'était la tentation qu'ils avaient. Et une troisième chose, la peur de l'instabilité face à une paix universelle. C'est-à-dire quoi? Juda avait devant lui les armées qui menacent. On va venir. C'est l'instabilité. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Et ils avaient deux choix. Mettre la confiance en Dieu ou mettre la confiance en homme. Ça, c'est les deux choix. Ce sont les deux choix. Et il faut avoir une carte dans l'esprit. Mais si vous avez Israël, Juda ici, de le sud, c'est quel grand empire? Égypte, n'est-ce pas? Égypte. Et au nord, on avait Assyrie et Babylone. D'accord? Et il y avait toujours cette guerre entre les grandes puissances. Puissance d'Égypte, puissance d'Assyrie, et après Babylone. Et après les Mèdes et les Perses. Et donc, qui était entre eux? Le tout petit Juda. Ouais. Et Juda, la tentation, c'est de faire croire. Bon, on est menacé par Syrie, on va appeler à Assyrie. Et plus tard, on est menacé par Assyrie, on va appeler à Égypte. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est de mettre notre confiance en qui? À l'homme. À l'homme. Ça, c'était la tentation. Et je pense qu'on connaît bien ces trois tentations, n'est-ce pas? On sait que Jésus va régner, mais on est tenté de penser maintenant, c'est pas Jésus qui règne. Ah, qu'est-ce qui arrive? Dieu, il dort? On ne sait pas. Est-ce que les choses difficiles dans nos vies viennent de Dieu? Non. On est tenté de douter le règne universel de Dieu. On est attiré, franchement, par les idoles de notre époque à nous. C'est pas Molech, c'est pas Baal, c'est l'argent, c'est le divertissement, c'est le loisir, c'est notre volonté, c'est notre approbation. Bon, toutes ces idoles. Et quand on est riche, une vie paisible, sans trouble, on oublie Dieu. Et troisième chose, moi je déteste l'instabilité. Hein? Franchement, j'aime bien une vie qui est bien réglée. Hein? Ça arrive pas très souvent. Et j'oublie le fait qu'il y aura une paix universelle. Et en fait, le Dieu qui donne la paix universelle, c'est le Dieu qui me donne la paix aussi dans ma vie. On est tenté. Ça, c'est pourquoi on a besoin de la lumière. Parce que le monde est rempli des ténèbres aujourd'hui. Troisième question. Comment Dieu établira-t-il cette lumière? On n'a pas le temps. Bon, je veux bien, mais on n'a pas le temps. Mais vous connaissez suffisamment Ésaïe. Chapitre 9, on a la promesse de qui? Un enfant, n'est-ce pas? Et il aura quatre noms, d'accord? Et il va porter sur ses épaules quoi? Un gouvernement. D'accord? Comment Dieu va établir cette lumière? La lumière, une partie de ça, c'est quoi? Un règne qui est universel. Pour avoir un règne, il faut un roi. Il va envoyer un roi. Ésaïe 9. Bon, on va sauter. Hein? Bon, on peut pas parler. Ésaïe 49. Peut-être ça, c'est un peu moins connu. Hein? Ésaïe 49. On ne peut que lire, mais les versets 1 à 7. Îles, écoutez-moi. Les îles sont les parties les plus loin, d'accord? Îles, écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Donc, on pense à sa part d'Israël. Mais on continue. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide, le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Ça semble ne pas va bien. Hein? Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob. Hein? Mais ici, on a un peu de difficulté. Hein? Le serviteur, c'est qui? Israël. Mais quel est son but pour ramener à lui Israël? Ah, qu'est-ce qui arrive ici? On continue à lire. Et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Il faut parler de quelqu'un d'autre, c'est pas Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. On a la lumière pour tout, universelle. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre, ainsi par l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en erreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. On a ici une lumière qui est le règne éternel. Universel de l'Éternel sur terre. Et on va sauter beaucoup, hein, mais pas beaucoup, pas trop. Ésaïe 50. On va parler à nouveau de ce serviteur du Seigneur. Et quand on pense à un règne universel, on pense qu'il va accomplir par la guerre, par la conquête. Mais chapitre 50, on a ces mots qui sont très, très, très beaux. verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Un enseignement maintenant. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur et l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne suis pas retiré en arrière. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous les lambeaux comme un vêtement, le teigne et dévorera. Je vais terminer. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de la lumière, que faire? Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. C'est effrayant. Cela veut dire quoi? S'il nous manque la lumière, on a deux choix. On s'appuie sur la lumière de l'Éternel, son serviteur, ou on essaie d'avoir nos propres lumières. Mais si on choisit notre propre lumière, il nous donne cette avertissement. Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Comment Dieu va l'établir? Pas par la conquête de force, mais par le sacrifice de son serviteur. Parce que le prochain passage, c'est 52 jusqu'au 53. On a déjà vu la souffrance, mais surtout la souffrance de son serviteur. Qui est qui? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Et donc, la quatrième question. Il dit, marchons à la lumière. Comment? Comment? Il faut être parfait. Qu'est-ce qu'il dit même en Ésaïe? Chapitre 2, la fin du passage, il dit, « Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ?» C'est vrai. À la lumière d'un règne universel, d'enseignement universel et d'une paix qui est universelle, pourquoi appuyons-nous sur les hommes, qui nous offre un règne, oui. Il nous offre aussi beaucoup d'enseignements, c'est vrai. Et il prétend de nous offrir la paix. Mais ces choses viennent d'où? De l'Éternel. De l'Éternel, par son serviteur Jésus-Christ. Notre passage, ça vient du chapitre 1, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Qu'est-ce qu'il veut dire, hein? Je pense qu'on peut résumer ces deux pensées en deux mots. se repentir, la repentance et la foi, n'est-ce pas? Cessez la rébellion, ça c'est la repentance. Et venez, ça c'est la foi. Cessez la rébellion et venez. Quand on veut marcher dans la, à la lumière de l'Éternel, du Seigneur, c'est la pratique de la repentance et la foi. Parce que jour après jour, on se trouve quoi? Face aux difficultés qui nous posent ces trois idées. Bon, il faut chercher un nouveau roi qui peut contrôler les choses mieux. Hein? Il faut chercher un nouvel enseignement qui est mieux et qui fait que les choses marchent mieux. Il faut chercher une autre source de paix parce que franchement, j'ai pas la paix. Ça, c'est la tentation. Cherchez ailleurs. Soit dedans, soit dehors, mais cherchez ailleurs. Et l'appel, c'est de toujours être des personnes qui disent pardonnez-nous, pardonnez-moi, pardonne-moi, Dieu, aide-moi, je te crois. Donc, on va sauter ça parce qu'on n'a pas le temps. Et je veux terminer avec 1 Jean 1, 5 à 7. D'accord? 1 Jean 1, 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui, de Dieu, et que nous, de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça, c'est notre affaire aujourd'hui. Hein? Et je sais que vos vies ne sont pas faciles. Vous êtes un peu comme Judas à cette époque-là avec les ennemis. Et là, les tentations sont toujours les mêmes. Hein? On est tenté de s'appuyer sur tout sauf que Dieu. Soit moi-même, soit ma famille, soit ma femme, mon mari, mon travail, ma capacité, quoi. Et pour combattre ces tentations, il faut savoir que la lumière, c'est chez Dieu. D'accord? Et cette lumière est composé de trois aspects. Un règne éternel, universel, un enseignement universel et une paix qui sera universelle. Et à la lumière de ce que Dieu va accomplir, on peut vivre maintenant avec confiance en lui. Et ça, c'est l'appel d'aujourd'hui. Hein? Pour moi, pour vous et pour tous les chrétiens et pour tous ceux qui ne sont pas chrétiens. On doit mettre la confiance en Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te louons parce que tu accompliras ce que tu dis. Il y aura un règne universel sur terre. Il y aura un enseignement qui est universel sur terre. Et il y aura aussi une paix universelle sur notre terre qui est brisée par la guerre. Et nous prions que tu le fasses bientôt. Que tu reviennes. Que tu établisses ton royaume. Mais pour l'instant, on attend. Aide-nous d'attendre avec la repentance et la foi. Et nous le prions au nom, dans ton nom, Jésus. Amen.